Alors, bienvenue et puis merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. On est bien contents. Donc, aujourd'hui, on clôt ce cycle autour de l'exposition salle de classe avec un projet qui mérite, on peut dire, d'être débattu, d'être exposé d'abord, puis débattu. L'école du possible à Arles. Nous avons avec nous donc Patrick Bouchain, qui est cofondateur de l'école. Oui. Jean-Paul Capitani, cofondateur aussi des éditions Actes Sud, qui en a eu, on peut dire, l'idée qu'il a faite, et le directeur donc, de l'école du possible, Jean Rakovitch, qui est directeur depuis 4 ans. Voilà. Très bien. Alors, on va rentrer un peu dans le sujet avec par différents biais, parce que c'est à la fois un projet, on peut dire, d'éducation alternative, c'est à la fois un projet d'explosion, on peut dire, de l'enceinte de l'école, d'ouverture de l'école sur un possible, mais aussi physiquement sur un territoire autre que celui de la salle de classe. Donc, on termine l'exposition salle de classe avec un dépassement, pas seulement dialectique de la salle de classe, mais un dépassement presque physique de la salle de classe. Et bien évidemment, comme tout projet qui a pu être au devant de la scène et qui a pu être affirmé politiquement quelque chose autour de l'enseignement, c'est un projet qui a été débattu et combattu et qui a dû se défendre. Et moi, j'aimerais bien qu'on n'en reste pas à des considérations générales sur le bien fondé de l'initiative, mais qu'on ose aborder aussi un tout petit peu le fond de la polémique, c'est-à-dire ce qui a vraiment dysfonctionné, ce qui a été mal compris et ce qui a été perçu comme une faiblesse qui méritait d'être attaquée dans ce projet, qui est un projet aujourd'hui qui fonctionne. Hein. Il a pas succombé, on peut dire, aux attaques qu'il a subies. Mais peut-être avant de commencer, j'aimerais bien entendre de Patrick et de Jean-Paul le récit, on peut dire, de la rencontre, c'est-à-dire comment ils se sont retrouvés, comment l'idée de cette école. Et progressivement, on va venir aussi à ce qu'est, quel est le fond, on peut dire, de cette école. Mais commençons peut-être par la rencontre d'abord.
Non, mais moi, j'ai la table en diagonale, alors, donc toi, j'ai un avantage sur toi, Jean-Paul. Dans la rencontre, si vous voulez, c'est parce qu'il faut toujours faire quelque chose auquel on croit parce qu'on a été confronté à la chose. Voilà. Donc, pour beaucoup, on est quand même parents et on a eu des enfants et on a été soi-même enfant. Donc, quand on a vieilli, en fin de compte, on connaît tous les âges et on connaît les difficultés que l'on a rencontrées. Donc, moi-même, j'ai rencontré des difficultés à l'école qui n'ont pas été des difficultés d'un mauvais élève, mais des difficultés d'intérêt telles que l'école était faite. Et j'ai toujours pensé que je n'avais pas eu l'école que j'aurais aimé avoir. Mais ça, c'est normal, c'est à peu près pour tout le monde. Bien que moi, j'ai eu un père qui, en fin de compte, m'a toujours protégé contre cette école qui ne me convenait pas. Il n'a jamais dit, voilà, tu n'es pas bon, et ainsi de suite. Souvent, il valorisait même le fait que l'école ne me convenait pas, en disant, bah, peut-être elle ne te convient pas parce que tu es différent. Et donc, Jean-Paul, on s'est rencontrés parce que j'avais le projet de faire une collection d'architecture et que Jean-Paul, chez Actes Sud, était d'accord pour faire cette collection, qui était une collection très particulière, qui était de travailler sur ce qu'on ne montre pas de l'architecture. C'est-à-dire comment elle se fait, la commande, comment se fait la conception, comment se fait la construction, voire son usage. Très souvent, on montre les projets. Quand ils sont finis, on ne les montre pas dans le temps long de leur vie. Donc on s'est rencontrés, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Et au cours de cette rencontre, on s'est raconté mutuellement notre vie. Donc Jean-Paul voilà, dirige et a présidé Actes Sud avec Françoise Nissen. Et Jean-Paul, donc, le métier qu'il exerce chez Actes Sud n'est pas un métier qu'on a appris. Donc, l'intérêt qu'il a porté à la publication des choses qui se font à l'extérieur est un intérêt d'une curiosité assez phénoménal. Moi, j'ai rencontré rarement quelqu'un d'aussi curieux et aussi généreux quand il a rencontré un auteur. Et donc, on est tombé d'accord sur cette collection, qui elle aussi n'était pas vraiment une collection d'architecture, donc elle a rencontré des difficultés, parce qu'elle était difficilement plaçable dans les librairies, mais on est devenus amis, et on a parlé de notre vie, et on a toujours eu l'idée de faire une école. Voilà. Donc, un peu, comment pourrait être une école ? Soit une école différente dans son architecture, soit une école différente dans son contenu, soit une école différente dans son rapport au territoire. Et donc, comme Jean-Paul est arlésien, très sensible à son territoire, une grande connaissance de la géographie, on avait toujours dit on fera quelque chose ensemble. Et un jour, pour un événement particulier, on est passé à l'acte de dire, en fait, quand on fait l'école. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que, est-ce qu'on a le droit de faire une école ? C'est pas sûr, vous voyez, on peut penser que, avec l'éducation nationale et les écoles privées, sous contrat, il n'y a pas l'autorisation de faire une école. Alors, comme moi, j'ai pour habitude d'essayer de comprendre le contexte quand on fait quelque chose, je suis parti à la base et j'ai lu le code de l'éducation. Donc, c'est une chose que, j'avais jamais lu jusqu'à maintenant. Je pense qu'ici, très peu de gens l'ont lu. C'est un code qui regroupe toutes les obligations de l'éducation liée donc à notre République. C'est un code d'ailleurs qui a été voulu par Lionel Jospin quand il était ministre de l'Éducation, car on avait plusieurs codes ou plusieurs manuels qui concernaient en fin de compte des catégories d'enseignement, l'enseignement professionnel, agricole, l'enseignement primaire, l'enseignement même à domicile, vous voyez, donc qui était une chose à part et qui n'était pas traité dans un même ensemble. Donc j'ai acheté le code de l'éducation. Je vous recommande d'ailleurs de l'acheter, parce que c'est un ouvrage qui coûte pas si cher que ça pour ce qu'il contient. Et il y a un préambule à ce code, comme tous les codes français, qui est un préambule qui dit, à partir d'aujourd'hui, nous allons régler la République avec un code de la construction, un code civil, un code forestier, ainsi de suite. Donc pour le code de l'éducation, il y a un préambule qui dit, tout ce qui se faisait avant, qui relevait de l'autorité religieuse, aristocratique, voire des us et coutumes, est fondu dans un même document qui est, en fin de compte, le document qui nous permet de vivre ensemble après la Révolution française et donc le changement de régime. Ce qui est magnifique, si vous voulez, c'est qu'au début de ce code, il y a un préambule qui est pris dans le discours que Condorcet a prononcé à l'Assemblée constituante. Parce qu'il y avait un grand débat, si vous voulez, est-ce que... on va donc former des enfants par la République qui seront donc des enfants opposés à l'enseignement religieux. Est-ce qu'on va former des enfants qui vont être d'ailleurs détachés de leurs parents, puisque les parents ne sont pas capables de les élever, c'est la République qui les élève. Vous voyez, il y avait des extrêmes absolument incroyables. Donc Condorcet, lisez-le, où il y a un livre de Badinter sur ça qui est magnifique, où il explique justement comment Condorcet... puise dans l'histoire de la France et propose quelque chose qui, en fin de compte, est on ne peut plus démocratique. Et il explique que ce n'est pas l'école au sens du bâtiment qui va être à faire, puisque l'Église, ayant déjà tout au niveau des bâtiments, même si on les avait pris à l'Église, il faut mettre tout de suite en place une école dès demain, parce qu'il y aura une contre-révolution, et il faut donc préparer à cette contre-révolution. Et donc, il dit, on va travailler avec ce que l'on a, et comme il faut donc de l'enseignement pour tous, on va donc faire une école communale, parce que la commune, quand même, est très importante à ce moment-là, et on va donc faire des écoles qui seront, on pourrait dire, à une demi-heure à pied pour chaque enfant, et les locaux, si nous ne pouvons pas mettre l'école dans des locaux existants, nous demanderons, en fin de compte, aux populations de mettre à disposition des locaux dans lesquels on enseignera. Et le but de l'éducation nationale, ça sera d'avoir des pasteurs ou des enseignants pour l'écriture et pour le calcul, et un inspecteur, c'est-à-dire un corps de 3 personnes, qui se déplaceront dans les campagnes pour aller voir comment les choses se font. C'est magnifique. C'est de dire, en gros, l'école, elle sera sur le territoire même, c'est une école locale. L'école, elle sera donc conditionnés par l'agriculture, puisque la France est agricole. Les bâtiments seront prêtés par des gens qui exploitent. Et quand d'ailleurs il y aura l'exploitation agricole qui primera sur le temps scolaire, on arrêtera le temps scolaire pour faire de l'agriculture. Bon, je m'arrête là, mais je vous jure, c'est un truc vraiment à tomber. Et on pourrait même dire que, et il est dit à un moment donné, toute personne qui pense pouvoir dispenser quelque chose d'intérêt général et qui sera considéré par ce corps d'inspection, ce corps d'enseignant, comme utile à la construction de la République, pourra créer une école. Comme si, en gros, on peut avoir le droit de créer une école. Alors donc, quand on discute avec Jean-Paul, on se dit, mais en fait, on peut prendre la décision à Arles, puisque Jean-Paul voulait mettre cette école à Arles, de créer une école, non pas une école atypique, voyez-vous, une école qui serait contre l'éducation nationale, mais peut-être une école qui pourrait d'ailleurs aider ou permettre à l'éducation nationale, à une petite échelle, de voir ce qui peut être expérimenté. Et comme, et là je vais passer la parole à Jean-Paul, comme Actes Sud est quand même voilà, une maison d'édition, qu'on pourrait dire que les auteurs de cette maison d'édition sont donc des sachants en puissance dans des domaines très différents, très pointus, y compris d'ailleurs pour les arts, les sciences, la littérature, les livres d'enfants et autres. En fin de compte, le panel complet des auteurs de la maison d'Actes Sud représente, on s'est dit ensemble, presque une université contenant. Et pourquoi il n'y aurait pas donc une maison d'édition qui créerait une école d'auteurs? Et vous savez que Freinet avait développé l'idée que c'était de faire une école d'auteurs. Les enfants venaient auteurs d'eux-mêmes, produisant leur propre formation. Et là, on se dit, en fin de compte, il pourrait y avoir une rencontre entre les auteurs d'Actes Sud, l'entreprise. Vous voyez, c'est toujours rejeté, une école d'entreprise et tout, qui n'était pas donc une école de l'entreprise pour le personnel de l'entreprise, mais une école de l'entreprise pour rayonner en dehors de l'entreprise.
Patrick,
et Jean-Paul pensait que voilà, cette école devait être agro-écologique. Alors, je passe la parole à Jean-Paul, parce que c'est une rencontre, vous voyez, un peu incroyable, et le nom, le domaine du possible, on cherchait le nom, et un jour, Jean-Paul sort un bouchon de sa poche, et me dit, j'ai débouché l'autre jour un vin, et sur le bouchon, il y avait marqué le domaine du possible. Et l'école, donc, a porté le nom de ce bouchon.
Et ce bouchon a joué un grand rôle.
Approche-toi, Jean-Paul.
C'est vrai que c'était une collection qui avait pour but, justement, de penser que nous avons des enfants. Quand Patrick présentait le Condorcet, etc., l'idée de la révolution et de l'école, on voit bien que ça part d'en haut et les enfants, ils existent. Mais si on reprend le processus, on s'est dit qu'on allait faire une école, si vous voulez, du réel, etc. Donc, de confronter les enfants à la réalité, mais surtout, et l'essentiel, et chemin faisant, maintenant c'est la 8e année que l'école existe et on commence à avoir une petite histoire, on se rend compte que le moteur de l'école, c'est quoi? Le moteur de l'école, c'est les enfants. Imaginez que ces enfants qui sont nés, ils ont commencé à apprendre à marcher, ils ont appris à parler tout seuls. Les parents sont là, sont chaleureux et accompagnants, on prête le doigt pour faire marcher un enfant, mais si vous voulez, ils ont appris tout seuls. Et tout à coup, on les confronte à une espèce d'institution, un parallélépipède rectangle, par exemple, et puis des règles, et puis des ambitions, et puis de comment il faut faire, etc. Mais c'est fou, si vous voulez, si on veut que les enfants... Et en ce moment, on est en train d'investir des sommes astronomiques pour faire de l'intelligence artificielle. Et vous vous rendez compte la quantité d'intelligence qu'on gâche en massacrant, si vous voulez, cette appétence de compréhension et l'intelligence des enfants. C'est phénoménal. On se dit, mais comment on marche sur la tête? Donc voilà, si vous voulez, cette école, pour nous, c'était une école des enfants, pour les enfants, pour chaque enfant. Donc on a fait une école, ben, on s'est dit que le meilleur moyen pour les enfants d'appréhender le réel, c'est quand même d'aller dans une campagne, parce que effectivement, le parallélépipède rectangle, aussi séduisant soit-il, n'est pas de vertu. Et donc là, on a commencé comme ça. Donc si vous voulez, l'agroécologie, effectivement, si vous voulez, si nous avons eu le culot, l'impudence ou la présomption de pouvoir faire une école, c'est effectivement parce qu'on était éditeurs et qu'on s'est rendu compte avec tous ces auteurs que nous avions et tous ces gens-là avec qui on parle, avec qui on est dans une émotion de leur travail et de la diffusion de leur œuvre. Et on s'est dit, voilà, pourquoi ne pourrait-on pas le faire, surtout si on considère que c'est une école des enfants. Donc on a fait ça et on a commencé à le faire d'ailleurs dans les éditions. Évidemment, il fallait faire des travaux. Les travaux, ça prend du temps. Et nous, on voulait ouvrir l'école et on a décidé de la faire. Une école, après tout, ça peut se faire n'importe où. Donc on l'a fait dans une église qui est contiguë aux éditions et qui sert à faire des concerts, des expositions. On a sacrifié un plateau complet de ce lieu pour faire l'école. On a fait deux boîtes à l'intérieur d'une boîte. Et puis, les terrasses des éditions où tout le monde travaillait avec le Sud servaient de cours de récréation. Évidemment, les salariés d'Actes Sud, enfin les collaborateurs d'Actes Sud, les éditeurs d'Actes Sud, sont venus me voir en me disant « Mais ils vont faire pipi où, les enfants ?» Voilà, c'est ce genre de problème très concret auquel on a été confronté. Mais sitôt que ils se sont rendus compte que ces enfants étaient là, sur la terrasse, dans la maison, partout, quand l'année a été terminée et qu'on a déménagé à la ferme, là, ils étaient malheureux, vraiment. Ils se sont dit, c'est pas possible. Parce que là, vous avez la vie devant vous, vous la voyez s'exprimer, se combiner, se compliquer ou se défaire, mais tout ça, c'est assez passionnant. Voilà, donc on a été... Et l'idée, c'était donc confronter au réel, confronter aussi au vivant. Donc, si vous voulez, le vivant, c'est pas une chose... Les enfants sont des vivants parmi les vivants, et il n'y a pas que des êtres humains sur Terre. Mais être confronté à la réalité, c'est quand même le minimum qu'on puisse offrir à nos enfants si on veut qu'ils comprennent le monde. Si on les confronte qu'à des choses électroniques ou des virtualités, mais aussi intelligentes soient-elles, ça, je crains, en tout cas au niveau de l'éveil du sensible, on peut aussi faire du sensible avec un téléphone, moi je veux bien, mais je veux dire, cette espèce d'initiation, de début de vie, qui est nécessaire et fondamental, mais voilà, on s'est dit, on le fait donc dans une ferme où il y aura on va produire des produits biologiques, c'est le cas d'ailleurs, ils mangent bio, on fait la cuisine, ils ont une intelligence de ce qui se fait, etc. Mais on s'est dit aussi, il faut que ce soit une école qui fasse une part considérable aux sensibles. Il faut que ce soit aussi une école locale. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on ne voulait pas faire une école qui va donner des leçons, mais une école qui explique comment ça se fait quand on peut le faire n'importe où, et pas n'importe comment, mais avec le désir. Donc cette école locale, inscrite dans la nature, avait pour vocation aussi de l'éveil aux sensibles. Donc évidemment, il y avait, comme elle était en Camargue, en Croix et Camargue, c'est les deux deltas, si vous voulez, qui allaient sur la mer, il y a des chevaux Camargue. Donc on avait un élevage de chevaux Camargue, on s'est dit, bon, ben, les enfants vont monter à cheval, c'est une bonne chose. Mais monter à cheval, c'est pas simplement un cheval, c'est pas une mobilette qui mange du foin, c'est un être vivant. Donc l'éthologie est fondamentale, donc le haras de la sens, etc., les relations qu'on a nouées pour les chevaux et sur des écuyers qui sont capables de faire comprendre ce que c'est qu'un être vivant qui n'est pas humain. D'autre part, il nous a paru fondamental d'initier les enfants à la musique. La musique, c'est, si vous voulez, c'est une espèce de quelque chose de miraculeux. D'ailleurs, on devrait commencer au niveau pas des maternelles, mais avant, c'est les crèches. Parce que l'éveil au sonore, enfin au son, c'est insensé qu'on prive les enfants de cette qualité-là. Et si vous voulez, des enfants qui, dès tout petits, ils se mettent à chanter ensemble, ils comprennent ce que c'est que d'être ensemble. On fait société quand on est ensemble, quand on écoute les autres et qu'on sait qu'on va intervenir, qu'on fait... Voilà, c'est un apprentissage formidable. Les enfants, on les accueille souvent en violoncelle. Il y a notre directrice musicale, elle joue du violoncelle. Alors, quelquefois, à 8h30, elle va dans la salle des petits, puis elle joue un peu, puis tous les enfants se rassemblent autour d'elle. C'est des petits moments d'émotion pour les parents, ça c'est sûr, mais pour les enfants aussi. Et si vous voulez, on fait aussi, c'est une école où on parle trois langues. Et l'autre jour, on y passait, et je voyais, bon, là, il y avait la prof d'anglais qui parlait avec les enfants, mais les petits, le matin, on ne leur apprend pas à parler anglais, on leur parle anglais. On leur montre des choses, on leur dit, voilà, ça veut dire ça. Donc, les enfants, à la fois, ouvrent leurs oreilles à des sonorités qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, ils chantent avec des autres, ils se rendent compte qu'on fait ensemble, et en plus, tous ces enfants ont des instruments. Tout le monde va jouer. Il faut prendre aussi l'école dans sa durée. Une école, c'est pas un an, deux ans, on fait la maternelle, etc. Non, c'est une école, ça va durer 10 ans, 12 ans. Si on fait le lycée, ce que nous espérons faire, c'est 15 ans. C'est vraiment un temps lourd et long, et dans une période où les enfants ont besoin qu'on s'occupe d'eux, de chacun. Voilà, donc si vous voulez, c'est... Évidemment, le potager, ben là, on est à la campagne, ben ils ont un potager aussi. Et c'est là que vous vous rendez compte, et c'est là où je passerai après la parole à Jean. Mais si vous voulez, on se dit, voilà, on monte à cheval, on fait de la musique, on chante et on joue. On s'occupe du potager. Et alors, on travaille quand ? Ben d'abord, ces matières-là sont matières à support... mathématiques, paroles, langues, etc. On peut mêler tout ça. Mais en même temps, si vous voulez, ce qu'il faut se rendre compte, et je reviens à mon début de propos, c'est que si vous considérez que les moteurs, l'énergie de l'école, c'est les enfants, c'est leur énergie à eux, c'est eux qui veulent apprendre. C'est pas nous qui voulons leur apprendre quelque chose. C'est eux qui ont besoin et qui souhaitent et qui veulent apprendre. Donc notre souci, c'est simplement de préserver cette flamme et ce désir pour que ça se passe. C'est ça qui est essentiel. Et quand vous n'éteignez pas cette flamme, parce que avec Françoise, nous sommes des grands-parents maintenant. Donc on a souffert avec nos enfants. Ça s'est passé relativement, enfin, des circonstances différentes. Mais si vous voulez, on se rend compte que nos enfants abandonnent. Enfin, disons, se mettent à jouer, ils font de l'instrument, ils font quelque chose, et puis tout à coup, ils veulent faire une classe préparatoire. Alors, on laisse tomber la musique, on laisse tomber le cheval pour passer 2 ans, 3 ans à être à Henri IV. Non, mais c'est monstrueux, quoi. Le mépris qu'on a pour la sensibilité et l'intelligence. Mais ça, je vous parle de ceux qui réussissent, qui sont aussi impactés par l'inanité de l'éducation nationale, mais disons, il y a ceux qui sont en échec ont quelquefois plus de chance, parce que du coup, ça leur ouvre les portes et des voies de tangente qui sont salutaires. Voilà. Donc, si vous voulez, la musique, le cheval, tout ça, c'est possible. C'est rendu possible parce que les enfants sont les moteurs de leur formation, de leur éducation. Donc, si vous voulez, quand on nous dit, mais alors, quelle méthode vous appliquez ? Mais on s'en fout de la méthode, c'est pas le problème. Ce qui est important, c'est chaque enfant. Donc c'est le seul souci de cette école, c'est d'avoir une équipe pédagogique. C'est quoi une équipe pédagogique ? Ça veut dire que les enfants ne sont pas confrontés à un prof dans sa classe, une heure de ci, une heure de ça, etc. Non, toutes les professeurs sont là pour chaque enfant. Donc si vous voulez, un enfant a un problème, il est autiste, il est dyslexique, dyspraxique, enfin je veux dire, il peut avoir toutes les difficultés qu'il y a. Le fait que c'est une école locale, c'est qu'on va pas, on n'est pas une ONG qui va corriger les erreurs de l'éducation nationale et remettre dans le rang les choses. Non, on est une population locale, les gens viennent, ben, il y a son lot d'autistes, de dyslexiques, de dyspraxiques, tous les 10 qu'on peut imaginer. Et si vous voulez, l'élément fondamental dans cette école, c'est qu'on n'apprend pas de ses incompétences, mais on apprend de ses aptitudes. Donc, si vous voulez, l'école est formidable pour vous dire votre enfant, il ne parlera jamais anglais, ou votre enfant, il ne peut pas faire ça. Non, mais on s'en fout. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Les enfants ont toujours des talents. Eh ben, c'est ça qui nous intéresse. Donc, c'est pour ça la méthode pédagogique, si vous voulez, c'est de faire attention aux enfants et de ne pas inhiber les enfants dans leur désir d'apprendre. Voilà.
Jean-Paul, merci. Vous nous avez donné les conséquences, on peut dire, de l'acte. Patrick nous a donné le contexte très large. Peut-être qu'on pourrait rentrer un peu en matière et voir un peu factuellement ce qu'est cette école, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle a de différent d'une école de la République et comment elle la corrige ou comment elle la complète. Hein, peut-être que Jean Rakovitch, vous voulez nous donner un peu ces éléments. De quelle école êtes-vous le directeur ?
Merci Christophe, merci beaucoup à tout le monde d'être ici ce soir. Alors j'aurais tendance à dire tout est dit et je viens trop tard dans tout ce qui a été articulé entre l'intervention de Patrick et de Jean-Paul. Je vais essayer d'être un petit peu plus factuel évidemment, mais je n'ai pas envie de renoncer à quelque chose, à vous témoigner d'abord ma joie d'être ici et puis d'être dans un centre d'architecture pour vous dire à quel point j'adore l'architecture. Et à quel point je considère le métier que j'exerce, celui de pédagogue, comme étant un architecte. Alors, bien sûr, je ne bâtis pas des maisons, des bâtiments, etc. j'aurais encore tendance à paraphraser un autre auteur, Rabelais, et puis les paroles de Panurge, « Je ne bâtis que pierre vive, ce sont hommes ». Et c'est vraiment cela dont il a été question avec Jean-Paul. On essaye vraiment de bâtir des hommes vivants. C'est-à-dire qu'on essaye, dans cette école, de concrétiser une sorte de fantasme qui existe dans l'éducation depuis Rousseau, quasiment. Mais on peut voir d'autres influences encore en Renaissance, avec Vittorino da Feltre et avec d'autres utopies, qui est celle de faire une école du vivant. Faire une école du vivant par le vivant, pour le vivant et pour les vivants. Et donc, ça, c'est un véritable travail d'architecture parce qu'il va falloir repenser un petit peu toutes les modalités, toute cette agrégation, on va dire, de dispositifs qui ont été amassés par l'école depuis quasiment la loi Guizot en France. On a d'autres systèmes éducatifs dans les pays européens qui sont un petit peu plus dynamiques, peut-être, sur certains sujets. Mais en France, on a une école qui a peu ou prou pas changé depuis près de 200 ans. Et donc, ce qui me plaît énormément dans le projet que nous avons ici, c'est qu'il vient, recouper des intuitions d'architectes, des intuitions d'éditeurs, et il vient surtout mobiliser un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas pédagogues à l'origine et qui viennent apporter un regard absolument neuf, qui vont faire table rase sur ce modèle, cette agrégation dont je vous ai parlé tout à l'heure, de petits dispositifs, cette espèce de rafistolage qui, comme des stalactites ou des stalagmites, voilà, grandit. Et donc, dans ce projet d'école, ce qui me paraît vraiment innovant, c'est qu'on va véritablement réfléchir à tout ça. Et on va essayer de mettre en avant, comme l'a dit Jean-Paul, l'enfant. Et donc, ça ne va pas être... Ça va être la considération qui va, justement, être le pivot, si vous voulez, ou la pierre angulaire de toute cette construction pédagogique. Alors, cette construction pédagogique, elle va concerner à la fois les emplois du temps, les élèves, avec une appréhension qu'on pourrait appeler holistique. Ça, c'est un mot que tu as employé, Patrick, très souvent, Jean-Paul aussi, dans les textes fondateurs de l'école. C'est-à-dire qu'on va essayer de développer l'individu, non pas seulement sous un angle intellectuel, mais on va essayer de privilégier aussi son développement dans les dimensions artistiques. Jean-Paul en a parlé tout à l'heure, l'importance de la musique, mais on a une grande importance des arts plastiques. On fait des résidences d'artistes, on a la chance d'être adossé à ce réseau, à cette nébuleuse Actes Sud, avec des auteurs, des artistes, des écrivains, des scientifiques qui viennent valoriser leur travail et puis viennent échanger avec les élèves. Donc l'architecture, mais d'autres arts, évidemment. On va essayer de développer aussi l'individu suivant son intelligence émotionnelle. On va essayer véritablement de valoriser les élèves. Et Jean-Paul a trouvé le nom en sortant un bouchon, mais je pense que là, pour le coup, il y a quelque chose qui est de l'ordre du déterminisme. On ne pouvait pas appeler cette école différemment parce que, justement, on va essayer de développer des possibles. Et on part de ce postulat qui est très important, que les enfants sont tous différents. Et puisqu'ils sont tous différents, il va falloir qu'on essaye, en quelque sorte, de nous adapter à chacun de ces enfants-là. Et donc, on va construire un système qui va être à la fois attentif à l'élan de chaque élève. On va essayer de trouver les endroits où il a une grande chance d'évoluer. D'autres endroits, il va falloir qu'on colmate un petit peu, parfois des lacunes, parfois des difficultés, etc. Mais c'est surtout qu'on va ériger, si vous voulez, en valeur peut-être suprême de cette école, c'est la différence. C'est-à-dire que dans un monde où nous avons une grande diversité de profils d'apprentissage, si on ne crée pas une structure qui permette d'accueillir cette diversité et qui l'érige en richesse et non pas en stigmatisation, en marginalisation, eh bien, on se retrouve avec des ghettos, on se retrouve avec des écoles spécialisées, on se retrouve avec des structures en silo. Or, tout le projet de cette école, c'est vraiment de faire une école ouverte à toutes les personnes qui pourraient nous rejoindre. Et donc, Jean-Paul a parlé de la diversité des profils. Nous accueillons des enfants qui sont aussi bien porteurs de handicap que des enfants avec des profils plus standards que des enfants qu'on a tendance à catégoriser aujourd'hui de haut potentiel. On va vraiment essayer de créer des petites structures en jouant sur plusieurs leviers. Le levier vraiment de l'accompagnement personnalisé et l'inscription dans un collectif et donc un travail sur la géométrie variable des différents groupes, groupes de compétences à certains moments, groupes intergénérationnels à un autre moment, en jouant sur des leviers qui sont très simples. Quand on a un groupe intergénérationnel, eh bien on va avoir les grands qui vont être un moteur pour les plus petits. Les plus petits vont servir, on va dire, de cobayes pour que les grands puissent transmettre leur savoir et donc formaliser les choses. On va vraiment essayer de réfléchir à tout ça. Et c'est ce côté expérimental, me semble-t-il, qui est symbolique de cette école. Cette école, c'est l'expérience. Les enfants apprennent par l'expérience. Alors, on a charpenté le système pédagogique, on pourra y revenir de façon un peu plus précise par la suite, avec différentes influences pédagogiques. On ne s'arrête pas à... Jean-Paul, tu as dit de façon très corrosive, on s'en fout des modèles pédagogiques, on s'en fout des pédagogies. En réalité, on les connaît, les pédagogies, mais on va essayer de les utiliser à bon escient avec les enfants que nous avons. Et donc, en essayant de créer quelque chose d'organique qui soit véritablement adapté aux enfants que nous avons là. Et chaque année... puisque c'est organique, eh bien on va évoluer, on va réaménager des choses, on va parfois abandonner des choses. On est, comme l'a dit Patrick, une expérience, c'est-à-dire qu'on va faire vraisemblablement des erreurs. Et donc on va être dans un même processus de recherche. À la fois les enfants sont des petits chercheurs, mais nous, en tant qu'équipe pédagogique et en tant que communauté pédagogique, si vous voulez, on va être aussi soumis à ce même processus. Et donc on va proposer des choses pour transformer l'école. Donc voilà, les deux moteurs principaux sont... d'un côté, l'ouverture, et de l'autre côté, vraiment le soin accordé à chaque individualité dans sa spécificité.
Merci. Patrick, tu voulais dire quelque chose ?
Non, c'est parce que, en effet, quand on a fait ce couple, Jean-Paul et moi, c'était comme si on avait même interverti nos compétences. Parce que moi, je crois assez dans une vie de faire la table rase des habitudes, voyez, de dire ben, toi tu sais faire ça, moi je fais ça et tout. Et donc on a interverti nos rôles. Et comme vous le savez, moi je suis un mordu de démontrer que la réglementation ou la loi, elle est souvent avancée pour empêcher de faire. Mais en fin de compte, quand on la connaît, elle permet de faire. Et donc c'est peut-être même un moyen de vivre ensemble. Ce que l'on a décrit et autres, c'est un moyen de vivre ensemble. Donc j'ai toujours à côté de Jean-Paul, qui transgresse encore beaucoup plus que moi, non pas de dire bah, je masque la transgression qu'il apporte par le désir de construire ou de monter cette école de cette façon, mais est-ce que dans la société dans laquelle on est, est-ce qu'il y a en effet la possibilité ? C'est-à-dire, est-ce que vous-même, vous pourriez être à l'initiative de créer une école ? Alors, comme je l'ai rappelé un peu, peut-être rapidement, mais puisqu'il est dit qu'on peut tous créer une école. Voilà, donc simplement, ce qui va manquer, ce sont les financements de cette école. Mais on peut la créer. Et contrairement à ce qu'on croit, on peut créer une école. Et peut-être même que l'école, elle n'est pas attendue comme on l'attend au niveau de son architecture. Alors, à la fin du code de l'éducation, il y a ce qu'on appelle l'école à distance. Parce que l'éducation nationale a mis en place très tôt une école à distance pour des enfants qui sont malades, pour des professeurs éventuellement qui assureraient la correction de devoirs et autres. Et donc, quand vous lisez ça, vous apercevez que vous pouvez, en effet, ne pas aller dans un bâtiment construit. Vous pourriez tout à fait être chez vous et faire l'école à domicile, donc l'école à la maison, comme ça s'appelle, et vous faire contrôler par l'organisme national qui contrôlerait. Mais vous ne pouvez faire à l'école à domicile que pour vos propres enfants. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire à domicile d'élever d'autres enfants que les vôtres. Donc nous, on disait, mais en fin de compte, notre école, c'est une maison dans laquelle on fera venir des enfants. Alors, on peut le faire pour son concubin, par exemple. On peut avoir chez soi un enfant qui n'est pas à soi, mais faire l'école de son concubin. Moi, à un moment donné, j'ai dit, mais alors, le concubin, à quel moment il y a une différence entre le concubin et l'enfant des amis tout. Donc, c'était pour dire, en fin de compte, on peut faire l'école chez soi. Donc, comme Jean-Paul voulait absolument une école locale et qu'il voulait une école dans l'entreprise, parce qu'au début, on a fait une école en ville et une école à la campagne, le projet d'une école. On voulait faire cette alternance entre ville et campagne. Et donc, est-ce qu'on peut faire une école à Arles dans l'entreprise ? Jean-Paul l'a dit très rapidement, mais il a une chapelle qui a été déconsacrée, qui a été un endroit pour stocker de la laine, et qu'après, il s'en est servi pour faire des expositions. Est-ce qu'on peut faire une école provisoire là-dedans? En fin de compte, il n'y a pas de règlement contre. Après, est-ce qu'on peut faire une école dans le mât qu'il a de sa famille? Oui, on ne peut pas faire contre. Mais est-ce qu'il y a en effet une application stricte de la classe dans son format, dans sa dimension, dans ses matériaux? Non, en fin de compte, on peut faire une école dans un lieu qui n'est pas normé. Vous voyez, donc il faut qu'on arrête de penser que voilà, on ne peut pas faire les choses. Et après, même, on a changé avec Jean-Paul, on a ri, quoi. Et même les matériaux, vous ne pouvez pas faire une cour d'école en terre battue, par exemple. Vous ne pouvez pas faire une école où les murs intérieurs seraient en terre crue. Alors, d'un côté, on voudrait apprendre aux enfants, eux, et là, on a une école qui peut être dans une ferme, qui est donc irréversible. Donc, même la découverte du réel, comme dit Jean-Paul, du vivant, il comprend aussi les savoirs vivants que les gens avant nous ont laissé et qui permettrait peut-être que c'est plus facile de comprendre que l'acoustique est meilleure dans une pièce en terre crue qui est ancienne miellerie, mettons du mât, ou dans une grange. Donc moi, c'est tout ça qui m'intéressait. Donc on a interverti les rôles, parce que moi, je tenais le discours, on pourrait dire, je tiens devant vous, mais j'avais dit Jean-Paul sera l'architecte. Et c'était parce que je pense que là aussi, à force d'être spécialiste de la spécialisation, on s'interdit des choses. Et Jean-Paul a été l'architecte, et moi, voilà, je ne faisais que conduire plutôt administrativement l'association. Je ne voulais pas être l'architecte de cette école. Donc c'était assez drôle, parce que lui-même a été à l'école de la transformation de sa propre maison pour qu'elle devienne école. Et quand on a inauguré, Jean le rappelait tout à l'heure, quand on a inauguré, on était en retard. Qui n'est pas en retard quand on y va un truc? Mais nous, en fin de compte, c'était un retard qui n'existait pas. La vie n'est jamais... Quand elle est terminée, c'est la mort. Donc là, on pourrait dire qu'une école non finie, c'est peut-être une école qui permet d'apprendre des choses. Et donc, comme il y avait des parents qui râlaient un peu, parce qu'il y a pourquoi il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, parce que les parents, ils veulent bien l'expérimenter, mais ils veulent tout. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre, comme on dit vulgairement. Alors, moi, j'ai dit, ben voilà, n'oubliez pas quand même que dans le monde... nous, on est dans une école en construction et que peut-être les trois quarts du monde ont des écoles en destruction. Voilà. Et peut-être même là, moi, je vais vous montrer une école à Mossoul. Il y a eu un bombardement à Mossoul et donc il y a des enfants qui n'ont plus d'école. Il y a même la guerre. Donc, alors on va arrêter de se plaindre parce qu'il n'y a pas des rideaux d'occultation. Voyez. Et donc même ça, c'est une façon de dire peut-être que ça pourrait être plus frugal. Peut-être qu'on pourrait avoir une école plus humaine, simplement. Le jardin dont Jean-Paul parle est la même chose que l'architecture. Ce n'est pas un jardin qui joue au jardin devant une architecture incongrue. C'est un jardin qui était là et qu'on a réavivé pour en faire un jardin. Vous voyez ? Donc c'est pour ça, je vois Christophe, en effet, il a raison. Il faut parler du contenu, il faut parler de l'objectif, parce qu'il faut avoir un objectif. Il y a le contenu, parce qu'on a des enfants, le travail de gens tous les matins, les parents, les enfants et tout. Mais il y a quand même une leçon républicaine, parce qu'on vit en République, il y a une leçon républicaine à donner, même aux élus, comme quoi on peut peut-être faire ça ailleurs, autrement. Et d'ailleurs, ça pourrait être une grande leçon pour l'éducation nationale, pour construire autrement ses bâtiments, rendre réversibles ses écoles, les ouvrir à d'autres choses qu'un enseignement. Donc moi, j'en garde un très grand moment avec Jean-Paul, parce qu'on n'a jamais été abattu, hein, par rapport à ce que disait tout à l'heure. On a souvent été retenu, combattu, pas vraiment, mais retenu, méfiant et tout, mais on n'a jamais été abattu, parce qu'il y avait un moteur, et Jean-Paul a raison de le rappeler, le cœur, c'était les enfants. Et quand on dit « c'est les enfants qui sont au centre », à chaque fois qu'il y a une contradiction, est-ce que c'est contraire aux enfants? Non, alors on le fait.
Moi, j'aimerais rentrer un peu dans le vif du sujet, parce que là, maintenant, on a une idée et du contenu et des conséquences et de ce qu'il a amené. Est-ce qu'il y a quelque chose qui relève, on peut dire, du spirituel et qui n'a pas sa place dans l'enseignement en France? Et est-ce que, finalement, on se prend les pieds dans le tapis quand on essaie, finalement, d'apporter cet élément dans l'enseignement des plus jeunes?
La spiritualité, c'est fondamental. Je veux dire, on ne peut pas gommer cette chose-là. Ce qui est gênant, si vous voulez, c'est les gens qui ont une religion. Moi, je n'ai pas de religion, mais je considère que j'ai des pratiques spirituelles, comme on peut avoir des pratiques démocratiques. C'est presque du même ordre, si j'ose dire. Si vous voulez, les religions, elles vous donnent des réponses. La spiritualité, elle vous pose des questions et elle sollicite votre sensibilité et votre intelligence en disant, bon, qu'est-ce que je dois faire, qu'on peut faire. Si vous voulez, on commence dès, je dirais pas à la maternelle, mais on fait de la philo en même temps qu'on fait de la géographie, de l'histoire, etc. Donc, si vous voulez, on essaie de regrouper un tas de choses qui relèvent. Donc, si vous voulez, la spiritualité, on peut pas. Je comprends pas qu'on puisse poser cette question comme si elle était incongrue. Ce qui est incongru, c'est les religions. Je suis désolé, mais je veux dire, tout le monde peut avoir ses convictions religieuses. Je les respecte, mais personnellement, je considère que, si vous voulez, la spiritualité est essentielle à la vie et à la compréhension du vivant, même du vivant qui n'est pas que nous, hein, etc. Et donc c'est vraiment fondamental. Mais en même temps, c'est une dérive qui peut être catastrophique. Et c'est une chose à laquelle il faut être très attentif. Et les enfants se situent facilement dans les choses. Dans cette école, si vous voulez, c'est ce qui moi, je suis extérieur à l'école, je ne suis pas présent à l'école, je ne travaille pas dans l'école, je vais à l'école de temps en temps et j'observe. Et qu'est-ce que j'observe ? J'observe que, si vous voulez, quand je vais dans d'autres écoles, les enfants sortent de classe, ils se mettent à hurler, ça fait un bruit insensé. Là, quand par exemple on fait un concert ou une fête ou quelque chose comme ça, les enfants, la dernière fois, ils faisaient 20 pièces de musique. Et on sent. Donc, éliminons les maternelles qui faisaient que du chant, mais quand même, si vous voulez, ces enfants se déplacer dans l'orchestre, dans les trucs, etc., il n'y avait pas un prof qui dit « va là, fais attention, dépêche-toi », etc. Non, ils font ça eux-mêmes, parce que c'est leur musique, c'est ceux qu'ils ont préparé, c'est ceux qui savent qu'ils vont faire, ils savent où ils doivent se mettre pour faire quoi que ce soit, etc. Ils sont aux commandes, ils sont pas aux commandes. Et si vous voulez, vous avez évoqué l'école à la maison par les parents. Il y a des parents formidables, il y a des enfants géniaux, mais cette espèce de frontalement parlant, je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir une équipe pédagogique de gens qui sont disponibles, qui ont quand même été formés pour avoir un certain nombre de connaissances et qui ont une position de chercheur par rapport à des enfants qui sont par essence des chercheurs à comprendre. Et donc, voilà, cette espèce de dynamique qui fait que les relations sont paisibles. Si vous voulez, quand vous arrivez à l'école, vous voyez quatre enfants qui se mettent à courir dans un coin, ils ont un violon, ils vont trouver un piano, boum, et ils se mettent à faire de la musique, parce que c'est la récréation, ils vont faire de la musique. Voilà, c'est ce genre de choses, c'est le quotidien, quoi, je veux dire. On rentre dans une classe, ils sont en train de raconter un truc, ils sont contents, ils vous disent bonjour, et puis ils vous disent, justement, on parlait de ceci, et puis ils vous racontent l'histoire. Voilà, c'est des enfants qui sont pas abandonnés à eux-mêmes. Le corpus, si vous voulez, de connaissances, enfin, disons, forgé par l'éducation nationale, on en a tout à fait conscience. Et si vous voulez, on va pas faire apprendre le français, les langues étrangères, les mathématiques, etc. La chose qui nous désespère le plus à l'heure actuelle, si vous voulez, c'est qu'on voudrait faire un lycée, et on voudrait faire un lycée agroécologique et artistique. Pourquoi ? Parce qu'on fait des physiciens, on fait des mathématiciens, on fait des littérateurs, etc. Mais la société à laquelle nous allons être confrontés avec le réchauffement climatique, tous les changements, toute l'intelligence... Parce que si vous voulez faire du bio, c'est pas back to the trees, on n'est pas en train de recommencer comme avant. Ben, c'est pas du tout ça, l'agriculture biologique. Au contraire, c'est comprendre véritablement ce qu'est le vivant. Je vous signale que dans la vie du sol, par exemple, 50% des micro-organismes, des virus, des bactéries et tous les bastrins qui sont là-dedans, on les ignore. Donc on est en train de les détruire de choses qu'on ne connaissait même pas ce que c'est et qui sont peut-être notre avenir. Donc si vous voulez, ce qu'il faut, c'est pour ça que je souhaiterais que nous arrivions à faire un bac agroécologique et artistique, parce que c'est vraiment le bras de levier pour l'avenir. C'est vraiment des gens qui comprennent les mécanismes du vivant, qui effectivement ont fait des mathématiques, de la physique, tout ce que vous voulez, mais en même temps, et surtout, la connaissance, la compréhension du vivant, mais aussi la sensibilité. Parce que si vous avez la compréhension sans la sensibilité, vous êtes, et sans la spiritualité, si on peut rajouter par-dessus le marché, vous n'êtes pas un être humain, quoi, un être vivant. Voilà.
Moi, ce qui me...
Je me perds un peu.
Non, mais la question que je me pose, c'est qu'on est quand même dans un pays où il y a un enseignement privé sous contrat, ce qu'on appelle, dont la fonction principale, quand même, il faut l'admettre, c'est de contourner les cartes scolaires. Hein, c'est ça le Et vous, vous n'êtes pas une école sous contrat, c'est-à-dire vous dépendez de deux ministères et pourtant vous n'avez pas cette reconnaissance qui permettrait...
Non, on n'a pas cette suggestion. La reconnaissance, si vous voulez. Vous vous rendez compte que je crois qu'on a 200 000 inspecteurs en France. C'est énorme. Il y a des profs, il y a 1 million de salariés dans l'éducation nationale, je crois que c'est à peu près ça. 200 000 inspecteurs. On a 4 inspecteurs qui viennent nous voir régulièrement. On est ravis de les recevoir et on les traite gentiment et ils sont contents ils font des bons rapports. Mais vous voyez qu'on est dans un environnement très contraint, très attentif à ce que nous faisons.
Oui, bon, je vais compléter. Alors, c'est un petit peu compliqué quand on est une structure un peu marginale, comme peut l'être Arc en Rêve. Hein. Les débuts étaient compliqués, il n'y a pas de subvention. Le temps qu'on reconnaisse le fait que ce soit quelque chose d'absolument formidable et innovant et unique, ça met du temps. Donc, je pense qu'on est un petit peu dans ce cas-là à l'école. On a la chance d'avoir deux ministères de tutelle depuis 2 ans. Le ministère de l'Éducation nationale qui nous conventionne selon ce qu'on appelle un contrat simple, c'est-à-dire un contrat qui touche une classe. Et chaque année, en fait, on a la liberté de redemander ce contrat simple pour essayer de garnir un petit peu notre conventionnement et l'étendre, si vous voulez, à toutes les classes. Donc l'année prochaine, on va avoir une deuxième classe. Mais tout ça, c'est un vrai combat. C'est-à-dire que c'est compliqué pour l'éducation nationale, tout simplement, pour des raisons de budget aussi, et pour des raisons aussi de beaucoup de demandes. Il y a très peu d'offres de postes et puis il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Donc il faut les partager, ces postes-là, parce qu'ils sont rares à la création. Donc ça, c'est déjà un premier élément de réponse. Il ne s'agit pas de reconnaissance ou quoi que ce soit, c'est vraiment dans un premier temps, de façon très pragmatique, que dans l'escarcelle, il n'y a pas tant de postes que ça et qu'il faut les partager de façon équitable. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qui caractérise notre établissement et qui est peut-être qui en rend l'essence assez unique, c'est qu'on a une tutelle du ministère de l'Agriculture sur nos classes de 4e, 3e. Donc on fait ce qu'on appelle une 4e, 3e d'enseignement agricole. Alors, si j'avais à choisir entre les deux, je ne vous le dirai pas ce soir, parce que c'est quand même m'avancer fortement, mais j'aimerais saluer le ministère de l'Agriculture dans l'éducation. On sait peu que, en fait, le ministère de l'Agriculture a porté toujours des initiatives pédagogiques, et que c'est tellement simple, parfois, eh bien, d'avoir une latitude, d'avoir une chance pour expérimenter du côté de ce ministère. Donc, là, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup aidé ces derniers temps, quand on a découvert cette possibilité, quand on a noué des liens avec le ministère de l'Agriculture. Ça nous a vraiment conforté, en tout cas, dans ce qu'on faisait. Donc la reconnaissance est liée. On n'est pas un établissement entièrement sous contrat. On est un petit peu hors contrat, un petit peu sous contrat, en fonction des cases. Donc c'est la difficulté parfois pour nous de nouer des partenariats avec la ville, avec ne serait-ce que pour avoir un bus scolaire, parce que nous avons l'immense avantage d'être en pleine Camargue et donc d'être dans un écrin de verdure absolument formidable de 136 hectares entièrement certifié bio. L'inconvénient de cet écrin formidable de 136 hectares, c'est qu'il se trouve à 15 km d'Arles et donc ça engendre des difficultés logistiques le matin pour accompagner les enfants. Alors on a mis en place avec l'association des parents des covoiturages. Ces covoiturages sont formidables pour nouer des liens entre les différents élèves, ce qui fait que dans la cour, après, on retrouve, quand il y a un petit qui se fait mal, et bien, il y a le grand du covoiturage qui accourt et qui essaie de le secourir. Et à l'inverse, des enfants qui se réconfortent mutuellement, c'est super. En revanche, en période de Covid, c'est bien évidemment beaucoup plus compliqué. Et je peux vous dire que c'est un foyer d'épidémie assez, assez impressionnant. Voilà.
Non, mais y compris pour le partenariat, puisque Jean-Paul l'a dit, il a donc un diplôme agricole et artistique. On a tenté, et d'ailleurs dans ma vie antérieure et autre, les arts à l'école, par exemple. Vous voyez, est-ce que les arts à l'école, c'est quelque chose qui vient de l'éducation nationale, qui recrute donc des enseignants qui peuvent enseigner les pratiques artistiques, ou est-ce que c'est un partenariat de l'école avec le ministère de la Culture et avec les structures culturelles? Vous voyez, là, encore une fois, rien n'est parfait, Mais comme là, on articule tout, c'est sûr qu'on a des hauts et des bas. Mais avec Jean-Paul et Françoise au début, on a terriblement proposé cela, si vous voulez. Parce que, un, déjà par les auteurs que Actes Sud a donc comme personne enrichissant l'entreprise, mais tout le travail que Actes Sud fait par la diffusion de la culture, par l'association du Méjean, où il y a des concerts et quelquefois des musiciens qui viennent. Pourquoi on ne jumelle jamais? Voyez, pourquoi on vient pour ça, mais la veille ou le matin, un artiste qui est en ville, qui se représente, pourquoi il ne vient pas dans les écoles? Ou pourquoi les écoles ne vont pas sur un plateau de théâtre ou pour le montage d'une exposition? Voyez, alors, en effet, pour nous, c'est dur à surmonter, mais on voit bien les effets que peuvent avoir un stage de troisième d'un enfant qui, juste une semaine, va voir sur le territoire comment la société s'organise. Ça peut créer des fois une orientation ou une vocation. Et donc, en effet, pour revenir quand même à la question que Christophe pose ou sous-entend, c'est très dur d'ouvrir une école. Alors, Jean-Paul n'aime pas le mot expérimental. C'est une école dont les enfants sont au centre et on fait attention à ça. Mais on expérimente quand même tout. D'ailleurs, on expérimente son financement, sa construction, le recrutement des profs, d'accepter l'inspection de l'éducation nationale. C'est compliqué parce qu'ils veulent, ils ne nous donnent rien, mais ils veulent savoir si en effet on est fréquentable. Donc on a quand même des inspecteurs et tout. Donc c'est tous ces liens, moi d'ailleurs je crois à ça depuis toujours, c'est tous ces liens qui quand même transforment et les enfants et d'autres gens. Le maire d'Arles, ou l'inspecteur d'académie, le recteur, le ministre, et ainsi de suite. C'est toutes ces expériences-là que chacun, on devrait être tenté de faire. Parce que le but, c'est quand même peut-être de faire des économies, et non pas de surenchérir toujours des besoins supplémentaires. C'est-à-dire que c'est des besoins d'économie qui permettraient d'être plus efficaces. C'est pas pour faire une éducation nationale appauvrie, c'est pour faire une éducation au niveau national, qui serait plus diverse et plus riche, voyez, avec moins de moyens financiers. C'est quand même le but. Voyez. Et donc, bon, là, c'est sûr, ce qui est exceptionnel, c'est Jean-Paul et Actes Sud. C'est exceptionnel. Mais moi, j'étais, à une époque où je militais, j'étais contre les écoles d'entreprise. Mais pourquoi aucun enfant, maintenant, ne sait ce que les parents font comme métier? Les enfants disent, mon papa travaille, maman travaille. En fait, qu'est-ce qu'il fait? De l'informatique. Vous voyez, c'est comme si, à une époque, on aurait dit « mon papa fait de la machine à écrire hein, » ou je sais pas quoi, ou du bureau. On a totalement perdu, ce que disait Jean-Paul tout à l'heure, la dénomination des choses, la compréhension des choses et le rapport. Et ça va mal. Les gens n'ont pas de travail, ils vont mal. Les gens du travail, ils sont mal au travail. Donc il y a un problème. Et on n'arrête pas de dire aux enfants « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Il décrit jamais aucun métier. Aucun métier, à part pompier. C'est le seul qu'il pense qu'il est utile, si vous voulez. Donc c'est pour ça que nous, on voulait vraiment venir dans le cadre de cette manifestation, mais c'est un sujet, si vous voulez, qui mériterait d'avoir des paragraphes, ou je ne sais pas quoi, pour pouvoir rentrer dans le détail. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Jean, voilà, c'est comme la pédagogie, c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas pire que les pédagogues, on pourrait dire, en fait, compte. Mais en fait, compte, voilà, transmettre, c'est quand même en créant un groupe. Est-ce qu'il y a un groupe qui anime et tout? Est-ce que c'est le prof qui sait ou est-ce que c'est l'élève qui sait? C'est très compliqué. Mais moi, je pense qu'on est quand même à un virage où ça va mal. Vous l'avez vu, les enseignants, quand vous les interviewez, ils ne veulent même plus faire les heures qu'ils doivent faire. Et d'ailleurs, ils considèrent, vous vous rendez compte, que maintenant, c'est un métier qui devrait rentrer dans la pénibilité. C'est-à-dire que pour les retraites et tout, la pénibilité, c'est-à-dire que maintenant, être enseignant, c'est faire un métier pénible. Alors qu'avant, être enseignant, c'était quand même un métier, c'était magnifique, c'était une vocation et une voix. Je pense que, voilà, moi je ne veux pas, parce que je sens là, tu vois, sauf que j'écarte trop. Mais
Non, mais on peut recentrer un tout petit peu sur l'architecture. Par exemple, il y a une histoire que j'aimerais bien qu'on puisse raconter, et peut-être ça n'a pas été assez clair, c'est-à-dire que ce projet s'est fait un peu dans une sorte d'élan et de désir de voir cette école prendre... et exister, et puis ça allait tellement vite que vous l'avez d'abord installé dans un lieu provisoire, donc qui était sous le toit d'une chapelle, où tu as construit deux boîtes, et ces deux boîtes étaient dans le même environnement sonore, en fait, pour faire deux classes séparées. Et à partir de cette expérience qu'on aurait pu considérer comme un ratage, finalement, il y a quelque chose qui est sorti.
Parce qu'avec Jean-Paul, c'est comme ça, et c'est pour ça qu'on s'entend bien. D'abord, Jean-Paul change d'avis tout le temps. Donc, moi, j'adore. Parce qu'en fin de compte, il change d'avis parce qu'il rencontre des difficultés et il change d'avis pour atteindre l'objectif. Il ne change pas d'avis pour empêcher de faire. Donc, c'est tellement rare quelqu'un qui change pour aller plus vite et faire les choses. Alors, moi, en général, je dis oui à tout. Quand Jean-Paul dit quelque chose, je dis oui. Parce que moi, j'ai tellement souffert qu'on me dise non, je dis oui, et après, j'accompagne le mouvement. Parce que, en effet, et je pense que passer à l'acte, c'était indispensable. D'ailleurs, comme voilà, Jean-Paul et Françoise ont eu un problème très grave dans leur famille, ça avait retardé le démarrage de cette école. Et en même temps, ça l'a provoqué. Et donc, moi, j'ai sauté sur l'occasion en disant, bah, puisque c'est comme ça, parce qu'on est dans la merde, vous êtes triste et tout, c'est horrible, alors on y va. Et on a fait une réunion, on a invité plein d'amis, et même moi, à la fin de la réunion, je dis, bah, à partir d'aujourd'hui, l'école existe. C'est-à-dire que ce n'est pas quand il y aura les premiers enfants, mais c'est à partir d'aujourd'hui, l'école existe. On a décidé qu'il y aurait une école, et on oublie qu'au moment où la commande se fait, le projet existe, ce n'est pas quand le projet est construit. Et donc, on a travaillé comme ça, à la recherche de tout. Et tu vois, mettons, même discuter avec le maire, ou avec le préfet, parce qu'avec les services de la préfecture, il me demandait l'adresse de l'école. Alors on dit, bah, c'est Actes Sud. Ah, bah, Actes Sud. Et puis d'ailleurs, on n'a pas besoin de vous donner votre adresse. Imaginons que l'école soit un bus. Ah bon, bah, un bus, oui. Bah oui, voilà. Mes enfants avaient vu un feuilleton qui s'appelait Magic Bus. On va dire, voilà, bah, c'est un bus. En fait, compte, dans le bus, c'est l'école. Et c'est assez drôle. Dans les campagnes, il y a des enfants qui font une heure de bus avec leur ramassage scolaire. Une heure de bus le matin, une heure de bus le soir, alors qu'ils habitent à 5 km de l'école, mais on fait un grand tour de 30 km pour ramasser des villages pour une école. Il y avait des écoles locales, on a recoupé les écoles, et en fin de compte, dans le bus, comme toujours, dans les couloirs, dans les toilettes, je ne sais pas quoi, plein de choses se passent, et bien dans le bus, on s'aperçoit que c'est un grand moment de ce que disait Jean, de convivialité. On est ensemble pour aller vers un objet commun, mais on ne profite pas du bus. Le chauffeur met la musique à fond, dévoilé, et eux, ils mettent leur casque et ils écoutent de la musique à fond. On ne fait pas ce que genre. Quand ils arrivent à l'école, ils sont épuisés. Ils sont levés tôt, ils sont saturés de musique et tout. Et même sur son travail. Alors, on avait dit, eh ben, il n'y aura rien, il y aura un bus garé devant les éditions, et on ne sait pas où on ira faire école. On pourra faire école à la mairie, pour les citoyens, dans la forêt, au bord du Rhône, éventuellement dans les éditions, ou dans une école. Donc, c'est assez drôle. Jamais personne n'avait pensé que ça pouvait être comme ça, et on a le droit de faire comme ça. Vous voyez, donc c'est un peu pour ça que comme on est à Arc-en-Rêve, moi je suis attaché à Arc-en-Rêve, à l'architecture et tout, mais le fait qu'on ait renversé nos rôles avec Jean-Paul, et que Jean est arrivé après, on avait mis un peu de désordre quand même, quand on l'a appelé, on avait besoin un petit peu de nos recadres. Mais ça jamais Jean-Paul et moi, et Françoise, nous l'avons vécu comme un échec. On l'a vécu comme un mouvement qui a d'ailleurs permis la venue de Jean. Et pour ne pas oublier, je ne veux pas trop que je le dise, mais Jean est un produit de l'université. Ce n'est pas un produit d'un mouvement alternatif. C'est un produit de l'université. Il a fait toutes ses études sur ça, sur la pédagogie et autres. Et il est venu avec un savoir qui ne lui paraissait pas suffisant et dont notre école lui paraissait être le lieu du prolongement de son travail universitaire. Vous voyez, ça aussi. Très important. On avait des discussions avec Jean-Paul, et même, tu te rappelles, on avait un recteur qui nous aimait beaucoup, là. Il disait, mais en fait, compte, vous êtes un laboratoire pour nous, on ne peut pas l'avoir chez nous, on l'a dehors. Donc quand on voulait des conventionnements, c'était, on n'est pas l'école contre l'école de l'éducation nationale, on est peut-être l'école de l'éducation nationale. C'est un peu prétentieux, mais enfin
bon. Bon, on va... C'est pas souvent qu'on a Patrick Bouchain à Bordeaux, donc je vais réserver une grande partie de cette pour discuter. Donc,
je voudrais avoir une idée du nombre d'enfants que vous avez. Je crois que vous arrêtez à la troisième. Combien vous avez de pédagogues? Quelle est la formation, la compétence de ces pédagogues? Merci.
Alors, merci de cette question qui nous ramène à la réalité. Alors, on a une centaine d'élèves avec 7 classes, si vous voulez. Sur ces 100 élèves, nous avons un taux d'encadrement pour celles et ceux qui sont de l'éducation nationale ou de l'éducation. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire le nombre d'adultes pour accompagner un nombre d'enfants. On a un taux d'encadrement très fort, c'est-à-dire qu'on a 22 adultes, alors avec des statuts différents, qui sont là. Alors, ces 22 adultes ne sont pas identiques que ceux qu'on pourrait trouver dans un établissement plus conventionnel. On n'a pas de CPE, on n'a pas de personnel médicalisé, on n'a pas de pions, on n'a que des pédagogues. En fait, de façon générale, et c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est que on considère la communauté éducative comme étant un petit peu plus large que peut-être le sanctuaire français qu'est l'école, très souvent, avec des clôtures assez fortes, avec une très faible porosité entre le monde des familles et le monde de l'intérieur. Donc dans ces 22 pédagogues, c'est les 22 pédagogues qui sont, on va dire, rémunérés par l'école. Mais à cela s'ajoutent aussi les parents, parce que les parents sont nos partenaires. Hier, nous avons eu on appelle ça des pédagogues en résidence. On a une pédagogue assez illustre qui est venue nous faire une formation. Elle reste un peu chez nous et puis elle essaie de nous proposer des dispositifs, des choses qu'on pourrait employer chez nous et qui nous manquent pour compléter un petit peu notre formation. Et donc les parents sont conviés à ces réflexions. On a réfléchi notamment sur ce qu'est la coéducation, sur la place des parents, sur la manière dont on pouvait accompagner les élèves dans tel ou tel cas. Voilà. Donc les parents font partie de cette équipe pédagogique à ce titre-là, mais aussi, par exemple, quand on va faire une visite d'une faille sismique, eh bien, il arrive que parmi les parents, on a une maîtresse de conférence qui est spécialisée en géologie et qui va faire cette visite-là. On a des artistes qui vont nous aider à telle ou telle activité artistique. Et on a vraiment un panel très, 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 très varié de compétences parentales qui rentrent en jeu dans cette communauté éducative. Cette communauté éducative, si on augmente encore le cercle concentrique, elle embrasse aussi les fondateurs. Jean-Paul est venu faire un cours de géologie mémorable autour de sa connaissance du Rhône. On a les écrivains, les artistes, comme l'a dit Patrick lui-même, les auteurs, les artistes, les scientifiques qui viennent aussi enrichir les dialogues avec les enfants et puis mener des activités. Et au-delà de ça encore, un cercle concentrique encore qui se vraiment voilà centrifuge pardon, avec les associations qui sont autour de nous, les fondations qui sont autour de nous, et tout ça, donc on considère que c'est tout un village. Vous connaissez le dicton, c'est tout un village qui va venir éduquer l'enfant. On va essayer vraiment de multiplier les points de vue autour des enfants, et il s'avère que parmi les 22 enseignants que nous avons chez nous, nous avons des enseignants qui sont qualifiés, qui viennent de l'éducation nationale, d'autres qui ont eu des expériences dans le monde entier, d'autres qui sont spécialisés dans une chapelle pédagogique en particulier. Par exemple, on en a une qui est spécialisée dans la pédagogie Montessori. On en a d'autres qui viennent du monde du travail. On a une personne, par exemple, qui s'occupe de la menuiserie et qui est en même temps le factotum de l'école. On a, dans notre équipe pédagogique, la cuisinière qui nous permet aussi d'appréhender tout un certain nombre de savoirs qui, malheureusement, ne sont pas enseignés à l'école. Comment est-ce qu'on peut apprendre aux enfants à vivre en omettant de leur apprendre à cuisiner, en omettant de leur apprendre comment pousse telle ou telle chose, en omettant, si vous voulez, de leur apprendre ce que c'est que la saisonnalité. Donc toutes ces expériences-là, elles sont portées pas seulement par des enseignants formés comme étant enseignants, mais par une équipe pédagogique. Et c'est peut-être en cela que notre école est un petit peu différente des grandes expérimentations de ce courant que vous connaissez peut-être, qui s'appelle l'éducation nouvelle, qui est souvent portée par une personnalité très forte. On a un pédagogue, Célestin Freinet, Ovide de Croly, Maria Montessori, qui, d'une main de fer, dirige les choses, si bien que quand leur mouvement, enfin, quand leur vie s'éteint, eh bien, le mouvement soit périclite, soit rentre en fracture, parce qu'il y a les tenants de l'esprit, les tenants de la lettre, etc. Peut-être l'originalité de cette école, c'est que c'est une école plurielle. Elle accepte une grande diversité d'enfants, vous avez compris, mais elle est surtout tenue par une communauté éducative très large et qui est en pleine évolution et qui accepte beaucoup de gens avec des compétences très, très différentes. Et c'est cette pédagogie du collectif qui nous semble, à nous, comme étant peut-être ce qui permet de pallier les grandes difficultés de l'éducation nationale maintenant, où on a un peu l'impression que les enseignants sont... comment dire, aliénés par rapport à leur travail, sont souvent peut-être ouvriers. Je parle en étant moi-même issu, comme l'a dit Patrick, je ne viens pas seulement à l'université, mais j'ai été longtemps enseignant de lettres dans des établissements compliqués, dans les banlieues lyonnaises,
à Mulhouse, enfin bref. J'ai vu plusieurs systèmes et avec mes collègues, on ressentait la chose qu'on était parfois voilà, de simples ouvriers. On aurait aimé être un petit peu en capacité. Eh bien, c'est ça vraiment qui va peut-être être le levier chez nous et qui va permettre à nos enseignants de trouver leur compte dans un système comme le nôtre. C'est qu'ils ont une grande latitude et ils se sentent vraiment en capacité. Vous connaissez la traduction française de empowerment, c'est vraiment ça, c'est avoir le pouvoir de faire des choses. Et donc, on va essayer de régir les choses de façon collective. Ça va prendre beaucoup de temps parce qu'on va travailler vraiment ensemble. On va avoir des mercredis après-midi, on va passer notre temps à débattre, à travailler autour de telle ou telle chose. Mais c'est gratifiant à la fin parce qu'on ne se sent pas tout seul. On apprend de nos collègues, on se fertilise un petit peu les uns les autres de nos savoirs. Donc il y a une sorte de formation interne, une formation externe, et donc c'est vraiment une perpétuelle évolution. Et ça, je crois que c'est le grand bonheur en fait d'une trajectoire professionnelle, c'est de savoir que mon lendemain ne va pas ressembler à mon quotidien. Voilà.
Mais dans votre question, il y a le nombre, et on a tenté de voir si à quel moment l'école était un collectif. Et à quel moment elle échappait, voyez, à cette expérimentation. Donc, au début, on ne savait pas avec Jean-Paul. Moi, je voulais recruter en redescendant, voyez, prendre 9-13 ans et aller vers la maternelle. Après, on s'est développé, on est monté à 130. On a été trop vite, donc on est redescendu. Et donc, c'est assez intéressant. Peut-être qu'un jour, on pourra définir quel est le nombre qui permet en effet d'appréhender de manière aussi libre que ce que Jean vient de décrire ce collectif. Voilà, parce que passer un certain, c'est fini.
Alors il y avait des questions, il y avait une dame, vous pouvez lever votre main, voilà, qui avait posé en première une question.
Juste dans la continuité, comment, vous avez parlé de l'équipe pédagogique, dite communauté pédagogique, mais comment vous nommez, je fais exprès de trouver un autre mot, moi. C'est professionnel, dites pas enseignant. J'imagine, comment vous les nommez? Les enfants, j'imagine, dites pas les élèves, c'est les enfants. Et pour les adultes, comment vous les nommez?
Alors, Françoise Nissen, alors, vous avez compris peut-être, mais je l'ai mal dit. Dans notre école, l'un des piliers, ça va être l'interdisciplinarité. Et donc, Françoise Nissen, notre fondatrice, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a une présence très forte au sein de cette école, et notamment dans l'inspiration qu'elle nous a donnée, parle d'indiscipliné. Nous ne sommes pas interdisciplinaires, mais indisciplinés. C'est-à-dire que, en fait, voilà, ces enseignants-là, on les nomme pas au final, parce que ce sont des noms. Vous voyez, on est dans un contexte un petit peu différent que dans un énorme établissement, comme dans ceux où j'ai pu exercer mes fonctions auparavant, où on est face à un grand anonymat. On arrive dans une salle des professeurs, on a 4 professeurs de français, 4 professeurs de ça, 4 professeurs de ça. On ne connaît pas tous les élèves. Quand on est prof de musique, on les voit une fois par semaine. Et donc, on en voit 460. Enfin, c'est vraiment l'usine. Et c'est compliqué, en fait, de connaître tout un chacun. Là, ce sont vraiment des individus, en réalité. Et donc, c'est des individus. On les appelle par leur prénom, évidemment, voilà. Et on les connaît aussi parce qu'ils ne sont pas seulement profs de quelque chose. C'est peut-être pour compléter la question de monsieur, c'est qu'on va aussi choisir des enseignants qui ont plusieurs cordes à leur arc. On a des enseignants, par exemple, qui sont experts dans les sciences, mais qui ont une appétence forte pour la musique. Mettons quelqu'un qui est diplômé d'un diplôme de guitare. Et donc, cet enseignant-là va pouvoir aussi enseigner la guitare. On a des personnes très, très passionnées par le théâtre qui vont faire ces activités-là avec les enfants. Donc, dans ce système-là, on va essayer vraiment, pas seulement de développer le potentiel des élèves, mais en même temps, on se construit soi-même. Et c'est Paul Valéry qui disait... J'ai tant construit que j'ai fini par me construire soi-même. Et je crois, pour compléter encore la réponse à monsieur, c'est que ça aussi, c'est quelque chose qui est très valorisant et qui fait qu'on a une équipe qui fonctionne.
Tout le monde a le statut d'apprenant. Parce que,
vas-y, Jean-Paul.
Oui. Il y a plein de profs qui se disent, après tout, il y a des chevaux, on peut monter. Donc ils ont envie de monter à cheval. Il y a une cuisinière qui est là et qui fait de la bonne nourriture. Bon, ils ont envie de pratiquer ça avec les parents. Ils viennent Donc, ça fait une communauté, si vous voulez. On dit qu'il faut un village pour former les enfants, il faut une communauté. Le problème auquel nous sommes confrontés dans ce pays maintenant, c'est qu'il ne faut pas artificialiser. Cette école, elle a été créée sur un mas existant, on l'a surélevée, la bergerie derrière, on l'a surélevée, on a 2000 mètres carrés de salles de classe et, qui sont assez fonctionnelles, je crois, mais on n'a pas envie d'artificialiser les sols, on n'a pas envie de détruire le vivant pour mettre ces gens-là. Or, si vous voulez, si vous faites de l'agriculture biologique, il faut que les paysans soient là, si vous voulez. Quelle est la différence entre la chimie et la biologie? C'est que vous faites plus attention à vos plantes, vous faites moins de traitements préventifs et aléatoires avec des produits chimiques, vous travaillez, vous essayez de comprendre et de faire au mieux, au plus près du vivant et respectant les choses. Donc il faut que les gens habitent sur place, parce que si vous faites que vos paysans, vous leur faites faire tous les matins 40 km et le soir 40 km, on se demande sur quel pays on habite. C'est la même chose si on fait un lycée. Il faut que, à partir de 14 ans, les enfants, il y a une rupture, si vous voulez, ils deviennent des adolescents, mais c'est presque des adultes. Ils peuvent très bien rompre le lien avec les parents 4 nuits par semaine. Ils peuvent continuer à rentrer chez leurs parents à Arles le week-end, etc. Mais ils peuvent très bien habiter à l'école. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut se lever à 6 heures du matin pour aller regarder un lever de soleil. On peut très bien se coucher à minuit parce qu'on a envie d'aller écouter les renards dans le bois, etc. Je veux dire, ces ruptures de temps, etc., c'est quelque chose d'essentiel. Or, comment on peut faire pour faire habiter ces lycéens, par exemple, ou ces gens qui viennent, etc. Donc il faut qu'ils travaillent. Donc il faut vraiment qu'on essaie de réfléchir. Et ça, c'est un problème d'architecture, puisque nous sommes dans une école, enfin disons dans un lieu qui se préoccupe d'architecture. Il faut inventer une architecture qui ne soit pas consommatrice de sol, qui ne soit pas consommatrice de... qui n'engendre pas, si vous voulez, des atmosphères délétères avec des micro-organismes, pas des micro-organismes, des micro-particules particulièrement toxiques, etc. Parce que c'est ça notre environnement quotidien, on est confronté à ça. Donc il faut essayer de penser un habitat qui soit à la fois formidable et qui ne soit pas en même temps découpé de la terre. Si vous voulez, les villages actuellement, ils sont devenus soit des résidences secondaires, soit on les a détruits pour faire des usines, etc. Enfin, il n'y a plus de villages. Mais comment faire société, comment faire des pratiques démocratiques ou des pratiques intelligentes, sensibles et nourrissantes pour les enfants et pour tous les êtres humains, y compris les parents et les profs, etc. Et c'est ça qui demande vraiment une approche et une réflexion, parce que on n'a pas de réponse à ces trucs-là, quoi. Je veux dire, moi, je veux bien qu'on nous paye des pompes à chaleur, etc. Bon, ben, c'est mieux que de mettre du pétrole, d'accord. Mais si vous voulez, on peut essayer, si vous voulez, prendre le pouvoir d'une certaine manière, c'est accepter d'être local. Il y a une chose que je fais une confidence, ça m'amuse de le faire, parce que si vous voulez, à un moment donné, quand j'étais enfant, on m'a dit, voilà, les ancêtres, les Gaulois, et les Algériens, ils n'en ont rien à foutre, parce que leurs ancêtres, ce n'est pas les Gaulois. Et puis, je me suis mis à réfléchir, je suis arlésien. Et à Arles, on n'a jamais été Gaulois. Je suis désolé, mais c'était un comptoir grec, il y avait des Celto-Ligures, et puis il y avait il y a eu après les Romains qui sont arrivés très vite. Si on s'appelle la Provence, c'est parce que c'est la Provincia, c'est-à-dire que l'Italie du Nord et l'Italie et la Provence, c'était les deux parties, si vous voulez, de l'Empire romain. Et si Jules César conquiert la Gaule, c'est à partir d'Arles. Donc jusqu'à très longtemps, jusqu'au VIe siècle, grosso modo, il n'y a pas de Moyen-Âge. Chez nous, il y a l'Antiquité tardive. Ah. Donc nos ancêtres de Gaulois, ça ne marche pas très fort. Ensuite, il y a Charlemagne. Il y a Constantin qui règne à partir d'Arles, qui va créer Constantinople. Il a un fils qui va devenir empereur aussi. Il s'appellera Constantin aussi. Mais il est à Arles. Donc si vous voulez, on peut raconter l'histoire à partir d'Arles. Voilà, tout doit être pensé en inversant les trucs. Et on se rend compte, par exemple, que la Provence, et pendant 3 siècles, nous sommes dans la Lotharingie. Charlemagne, 3 fils, au milieu, il y a la Lotharingie. C'est quand même la partie la plus riche de l'Europe. C'est ça, les Flandres, la Bourgogne, la Provence et l'Italie du Nord. C'est quand même une efflorescence culturelle, etc. Mais pendant 3 siècles, on n'existe pas dans l'histoire de France, nous, les Provençaux. On n'existe pas. Parce qu'on ne sait pas que pour devenir roi de Bourgogne, etc., on se fait couronner à Dijon et à Arles. Si on me dit... Je vais en Arles. Pourquoi on va en Arles? Parce qu'on va en France, c'est un État. Comme on va en Avignon, c'était les États du Pape. Voilà, tous ces trucs-là, si vous voulez. Et notre école voudrait et souhaite et espère et pense que si on veut être accueillant, si on veut être l'hospitalité, soit quelque chose de spontané, il faut être fier de là où on est et savoir d'où on est, qu'est-ce qu'on est. Et si on, à ce moment-là, on est curieux des autres, enfin, je veux dire, prenez Bordeaux, je veux dire, votre histoire, c'est pas, elle n'est pas calée sur l'histoire de France. Et ça, on se rend compte, si vous voulez, que cette espèce d'homogénéisation qu'on a inventée, c'est une vue de l'esprit, c'est tout.
Voilà. Jean-Paul, on a Fabrizio qui veut nous poser aussi une question, qui veut poser, vous poser une question.
Oui, j'ai une question par rapport à l'architecture du projet, plutôt adressée à Patrick Bouchain. Donc, je serais, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de visiter le lieu, je serais curieux de mieux savoir quels ont été les gestes fondamentaux du projet et de transformation, ou plutôt l'attitude qui a été amenée par rapport au projet, quels sont donc les choix principaux. Et l'autre, c'est un peu une curiosité, donc, du fait que vous êtes en même temps, comment dire, le client et l'architecte, parce que vous êtes initiateur du projet et aussi autour de la transformation, est-ce que ce projet vous a, d'une certaine manière, conduit, amené à opérer différemment de, d'autres projets dans lesquels vous avez été impliqué, ou est-ce que vice-versa, vous êtes trouvé à votre goût une espèce de continuité avec votre trajectoire?
Alors, d'abord, je l'ai fait comme un auteur, parce que, comme on a dit que c'était une école d'auteurs, et je me suis considéré comme un auteur de la maison Actes Sud, dirigeant une collection qui a eu du mal à trouver sa place parmi les architectes à qui je voulais donc offrir cette collection pour qu'ils racontent autrement leur métier. Et donc, je me suis placé comme un auteur. Donc déjà, étant auteur chez Actes Sud, je l'ai fait donc bénévolement. Puisque Jean disait, les auteurs amènent, mon apport en tant qu'auteur, c'est mon apport pour faire de l'architecture. Mais comme Jean-Paul fait une architecture comme malheureusement on n'en fait pas, qui est une architecture en marchant, une architecture de réemploi, de récupération, et que Jean-Paul a autour de lui ce que moi j'ai toujours rêvé d'avoir, c'est-à-dire une sorte de relation avec des artisans locaux pour lesquels il leur passe des commandes régulières pour Actes Sud, pour les manifestations, les rencontres de la photo et autres. Donc il a plombiers, électriciens, maçons, qui sont comme si c'était son entreprise. Et bien que ce soit des artisans extérieurs à l'entreprise. Et donc je pense que là, on a fait le trio qui n'existe pas dans l'architecture, c'est que l'architecte joue un rôle plus de définir mieux la commande, que peut-être l'utilisateur agit sur sa construction, parce qu'il en est peut-être même l'utilisateur ou le financier, et que la construction est complètement liée au projet. Et que donc, voir Jean-Paul changer, c'était Jean-Paul libre de monter son projet. Donc c'est comme ça qu'on devrait faire de l'architecture. Alors c'est aussi ce qui a intéressé quelquefois des services de la ville qui nous ont refusé le permis de construire, au prétexte que l'école, là où on l'implantait, elle était en zone inondable. Et donc, quand Jean-Paul parle de connaître le terrain, vous pensez bien qu'un fonctionnaire qui trace sur une carte une ligne entre inondable et pas inondable, ça nous paraissait bizarre, puisque les parents de Jean-Paul ont habité cette ferme, et jamais il y a eu d'inondation. L'endroit est parfaitement drainé par les canaux qui sont autour. C'est même une merveille de protection sur les inondations. Donc on s'est battu pour déplacer la ligne, vous voyez, par exemple. Et donc on a perdu un an, mais on a déplacé la ligne en faisant comprendre qu'en n'allant pas sur place, la ligne n'était pas au bon endroit. Ensuite, on n'avait pas d'eau. On avait de l'eau, on avait un puits, mais on ne peut pas prendre l'eau d'un puits. Vous vous rendez compte, c'est interdit, l'eau d'un puits. C'est un concessionnaire qui prend l'eau du puits et qui vous la revend dans un tuyau en polyéthylène, quand même. Alors, on a ouvert l'école sans eau. Donc c'était assez drôle. C'est totalement interdit, par exemple. Après, on faisait des contrôles quotidiens pour démontrer que l'eau était potable. Alors c'est intéressant parce que vous prenez des services de l'État qui ont le contrôle de l'eau et qui viennent là et qui trouvent que c'est absurde. C'est une ferme, elle existe depuis longtemps, il y a des gens, machin, ils goûtent l'eau, elle est bonne et tout, mais il faut que ça parte au labo, que ça revienne et qu'on donne l'autorisation. On a eu, admettons, un problème d'épandage, parce qu'on ne voulait donc pas polluer les sols et autres. Et donc, sans cesse, on était confronté à un projet qui était contraire au règlement, bien que le règlement était fait pour protéger l'environnement. Vous voyez, c'est ça qui est absurde. Quoi. Et donc, moi, j'en garde un très grand souvenir. Et donc, on pourrait dire que, Fabrizio, je suis allé à l'école. Voilà. C'était un grand moment de ma vie.
On va prendre encore deux questions. Parce qu'à 8 heures, il faut qu'on... Allez-y, oui, vous étiez là dès le début.
Ouais, j'y vais.
Encore.
Du coup, je vais vous en poser deux, trois. Alors, en fait, en sciences cognitives, on sait que maintenant, les adultes devraient occuper à peu près 75% de leur journée à jouer. Donc, quelle place faites-vous au jeu pour l'apprentissage ? Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup, je ne sais plus. Oui, alors donc on stigmatise beaucoup les religions. Moi, je voulais savoir un petit peu ce qu'il en était des dogmes de la technoscience et du capitalisme de la prédation. Est-ce qu'on apprend justement à ce que les enfants aient plus d'esprit critique pour remettre tout ce beau système un petit peu en analyse ? Et ensuite, je voulais savoir aussi si, contrairement à l'éducation nationale, là, les gens sont un petit peu formés aux sciences cognitives et puis aussi connaissent bien le cerveau et les process d'apprentissage pour les enfants, pour savoir un petit peu les rattraper quand il n'y a plus de motivation. Et puis aussi tout ce qui est, on va dire aussi, les émotions positives, être un petit peu comme dans certains pays nordiques, un petit peu plus rassurant. Parce que dans l'éducation nationale, en général, on ne fait que descendre les gens, on ne sait pas les épauler, même ceux qui sont HP. Voilà, merci.
C'est pour moi.
C'est une question difficile, c'est pour Jean.
Alors à la première question, je vais répondre par un pourcentage, 75% de jeu. On travaille beaucoup par le jeu. En réalité, c'est une pédagogie de projet. Et l'idée, c'est de partir, peut-être, de prendre en contre-pied une caricature qu'on a très souvent de l'élève qui arrive dans une classe où sur le tableau est déjà marquée une formule. Et le rôle de l'enseignant, c'est de lui dire, du haut de sa chair, applique cette formule. L'idée, ça va être véritablement de mobiliser des savoirs en vue d'une réalisation concrète. Et donc, ça veut dire de se plonger vraiment dans un rôle de petit chercheur. Et ça, c'est vraiment ludique. C'est-à-dire que c'est les enfants qui vont devoir mobiliser telle ou telle chose pour pouvoir aboutir à quelque chose. Je vous donne un exemple. On a créé un parfum du possible. Donc, on est parti des herbes du jardin. On a appris ce que c'est que les proportions. On a appris à distiller les choses. On a appris, en faisant venir un nez, comment a été composé un parfum. On a étudié les langues et puis les cultures hispaniques et anglaises, par exemple, sur l'horizon d'attente du public face à une publicité de parfum. On a travaillé sur l'esthétique du flacon, on a travaillé sur les slogans qu'on pouvait créer sur le flacon. Donc, vous voyez, en faisant ce projet-là, eh bien, on va vraiment mobiliser tout un tas de savoirs. Et donc, ce caractère ludique est épaulé par l'interdisciplinarité. Voilà un petit peu le fonctionnement de cette école, avec une attention particulière portée, et vous verrez en cela qu'on est vraiment très en accord avec ce que pensent les neurosciences. On essaie véritablement de trouver une balance entre ce qui est de l'ordre de la pratique et de la théorie. On en parlait tout à l'heure d'une dialectique, et bien c'est ce qu'on essaie de faire. À la manière des chercheurs, en réalité, on essaie de mettre les enfants sur le terrain et puis d'engendrer de la réflexivité par rapport à leur pratique. Il y a un truc très fort que tu as dit tout à l'heure, Patrick, c'est la question de l'erreur. L'erreur, pour nous, n'est pas une faute, c'est-à-dire que c'est une amorce pour l'apprentissage. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui relève évidemment de ce que nous apprennent les neurosciences. Alors les neurosciences, comment les occulter aujourd'hui ? C'est quelque chose qui est très très important. L'éducation aux émotions, les soft skills, tout un certain nombre de choses qui sont faites dans les pays et qui sont depuis longtemps prônées par l'UNESCO. C'est seulement en novembre 2022 qu'on a mis en évidence qu'il fallait, dans l'éducation nationale, appliquer ça. On a été retoqué par l'UNESCO sur notre manque de réactivité par rapport à ces choses qui sont pratiquées dans les pays scandinaves depuis fort longtemps. Alors ça, c'est vraiment important. Et ce qui est important pour nous, et je reprends ce que je disais tout à l'heure du partenariat avec les parents, c'est que non seulement nous devons être formés à cela, mais en plus les parents également. Et donc, pour vous donner un exemple, la semaine dernière, au même moment, eh bien, nous organisions, parce que nous avons la chance de bénéficier d'Actes Sud et puis de tout ce réseau formidable, eh bien, nous avons fait une projection de cinéma. On a vu L'école est à nous, je ne sais pas, je vous le conseille, c'est très intéressant et c'est très, très stimulant sur toutes les questions qu'on vient de se poser aujourd'hui, sur l'école dans les murs, hors les murs, qui s'ouvre à des activités qui ne sont pas forcément celles du quotidien. Et donc, on a fait venir, par exemple, Isabelle Filioza, que vous connaissez certainement, puisque vous posez la question, qui est une grande spécialiste, précisément, de ces questions-là, de la petite enfance. Voilà, donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et évidemment, à ces séances de cinéma, on fait venir les parents, on fait venir du public de l'extérieur, et on essaie de faire avancer ces réflexions pédagogiques, parce que notre but, c'est pas seulement de rester dans l'entre-soi, de rester dans notre école, et puis de fermer, mais c'est vraiment d'essayer de créer un mouvement. Et je crois que c'est ça qui est formidable dans ce mouvement qui a été initié par deux personnes qui ne sont pas issues du monde pédagogique, c'est qu'il y a un besoin de pédagogie dans notre société actuelle. Il y a des questions, il y a une crise sans précédent, on est face à une évolution culturelle que l'homme n'a jamais connue. La révolution numérique est absolument faramineuse dans la transformation du rapport au savoir qu'elle engendre chez les enfants, chez les adultes, chez tout le monde. Eh bien, c'est vraiment important que des gens très compétents dans leur domaine viennent apporter leurs compétences et viennent initier un projet comme ça qui a pour objectif d'être diffusé par la suite. Et donc, ce qu'on fait aujourd'hui, merci beaucoup à Arc en Rêve, c'est aussi l'occasion de vous en parler pour que vous aussi, de votre côté, vous créez peut-être des choses qui nous permettront ensuite de créer un réseau et on essaiera peut-être de faire bouger les lignes, chose qui a l'air assez symptomatique de notre projet.
Merci Jean. On va prendre une dernière question.
Oui, je voudrais vous poser une question. Vous avez parlé de grande diversité d'enfants et du coup, j'ai peut-être pas bien saisi. Est-ce bien une école qui est payante? Et si oui, quel est votre point de vue là-dessus? J'imagine que vous avez réfléchi à ça. Et qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour que ce que vous avez créé, qui a l'air magnifique, puisse bénéficier aux enfants qui sont le plus éloignés de ce mode de vivre et de penser? Voilà.
Jean-Paul, on a quand même travaillé là-dessus. Écoute. Non, mais rapidement, si vous voulez, parce qu'au début, on est parti sur ce que coûte un enfant à l'éducation nationale. Même si, en effet, c'est un impôt et c'est l'État qui décide de le réinvestir, on ne peut malheureusement pas le prendre. Ça coûte entre 8 000 et 10 000 euros par an. Alors, on a décidé de faire une école qui, en effet, coûterait ce prix-là, 8 000. Parce qu'il fallait avoir les moyens de payer les professeurs, ou les pédagogues, ou les encadrants, ou les personnes qui encadrent l'école, comme ils sont payés à l'éducation nationale. Il ne fallait absolument pas qu'il y ait une sous-qualification par un sous-paiement des enseignants. Alors, le gros avantage, c'est que Jean-Paul Capitani a amené donc une propriété familiale dans un fonds de dotation à l'école, ce qui fait qu'on pourrait dire que l'investissement, on n'a pas d'amortissement sur l'investissement, on n'a que le fonctionnement. Alors, comme personne ne peut payer, enfin, peu de gens peuvent payer les 8 000 euros, on avait décidé à l'époque, ça a un petit peu changé, mais je vais vous l'expliquer comme au début, d'avoir trois tiers. On pourrait dire, il y a un tiers qui peuvent payer 8 000 euros, voire plus. Et il y a un tiers qui peut payer la moitié de 8 000 euros, voire un peu plus. Voilà. Et puis, il y a peut-être un tiers, en fin de compte, qui peut pas vraiment payer ça, mais qui peut éventuellement, des fois, dans des écoles sous contrat, le payer. Et donc, on a créé une sorte de fonds de solidarité qui fait qu'on aide les personnes qui voudraient rentrer dans l'école et qui ne pourraient pas payer ce que coûte l'école. Alors, on avance comme ça. La semaine dernière, on a eu un conseil. On a dû rehausser les frais de scolarité, puisque, voilà, une petite difficulté liée à l'époque. Mais on est quand même très attentif à cela. Et dans le recrutement, contrairement à ce qu'on pourrait croire comme ça quand on y va, parce que voilà, les gens ne marquent pas toujours leur niveau social sur leur comportement, par leur habillement et autres, on a un recrutement très diversifié d'enfants appartenant à des catégories très courantes, déjà d'enfants de familles séparées, hein, ce qui arrive quand même, d'enfants des femmes monoparentales et d'enfants, donc, on pourrait dire, standards, comme utilise Jean comme terme, j'aime bien le mot standard. Donc, c'est de faire attention. Alors, c'est encore la petite unité. Vous voyez, c'est ça. Quand Jean-Paul l'explique, il l'explique bien, mais La grande particularité, c'est qu'elle est locale au sens noble du terme. Elle est observable, visible. Le drame d'un enfant, on le perçoit. Quoi. Même le drame d'un encadrant, enseignant, je sais pas quoi, ça se perçoit. Donc, comme ça se perçoit, ça se comprend. Il faut toujours se mettre dans une situation, il faut comprendre les choses. Il ne faut pas les savoir, il faut les comprendre pour pouvoir les affronter. Et moi, je pense qu'on est encore dans une école digne du projet qu'on s'était fixé d'avoir des enfants de toute catégorie chez nous. Et peut-être même, parce qu'on avait tenté, mais bon, c'est un peu interdit, parce que comme notre association et l'école est reconnue d'intérêt général, l'argent qui est apporté à l'école par mécénat est déductible des impôts. Donc c'est peut-être même, comme le dit Jean, de faire des parents, de personnes qui rayonnent pour faire rentrer des petites sommes, mais ce n'est pas des grands mécènes. Il y a des grands mécènes, mais des petites sommes qui montrent qu'on s'est approprié l'école, et d'ailleurs on l'aide en la propageant et en faisant revenir de l'argent. Alors ce n'est pas des grands-parents, mais ça peut être des familles et autres. On avait pensé que des enfants pourraient être parrainés, par exemple. Moi j'avais tenté, il y a une petite fille que j'aimais beaucoup, et les parents ne pouvaient plus rester, et tenter de dire, ben, est-ce qu'une personne peut prendre pour un an un enfant en aidant l'école. Je pense qu'il y a un travail à faire sur ça. C'est un mécénat populaire, c'est pas un mécénat...
Les parents pouvaient défiscaliser, en fait.
Comment ?
Les parents pouvaient défiscaliser.
Non, on n'a pas le droit.
Ouais, pas les parents directement.
Tu ne peux pas toi-même, c'est trop facile.
Et même s'ils sont adhérents à l'association.
Non.
Bah, mais c'est bien
ni
vu.
Ni les grands-parents.
C'est compliqué. Non, mais c'est vrai que... En fait, on recrute des enfants, on ne recrute pas des parents. Quoi. Donc, que les parents ne peuvent pas payer...
Paul, le micro.
Pardon. Si on constate que les parents ne peuvent pas payer le tiers de ce que coûte un enfant, eh ben, on fait en sorte de les aider. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous voulez, il y a des situations difficiles. Comme je vous dis, une école locale, il y a des autistes, par exemple. Mais c'est une chance extraordinaire pour une école, par exemple. Nous en avons deux comme ça qui sont devenus des musiciens, mais l'un vraiment presque professionnel à ce stade maintenant, mais l'autre, c'est un bonheur. C'est des enfants qui arrivent en boule, qui parlent à personne, qui, quand on les installe dans la salle de classe, ils s'en vont 5 minutes après, enfin, on ne sait plus que faire. On essaye tout, le cheval, le jardin, etc. Puis tout à coup, pour l'un d'entre eux, ça a été la trompette, pour l'autre, ça a été le piano. Mais ils se sont révélés, ils n'ont plus lâché leur piano. Celui qui joue de la trompette, c'est une merveille. Il apprend aux autres à jouer de la trompette maintenant. Pour un autiste, c'est quand même franchir un grand pas. Hein. Je ne sais pas si vous réalisez le potentiel que ça représente. Mais tout ça, ça n'a pas de coût. Ce n'est pas des choses qu'on peut évaluer. Quoi. Je veux dire, il n'y a pas de professionnalisation de la chose. C'est simplement une vie en commun, une observation à chacun et tout. Toute l'équipe pédagogique est là pour chaque enfant.
Voilà. Jean Rakovitch, Jean-Paul Capitani, Patrick Bouchain, on pourrait vous écouter comme ça longtemps. On va le faire parce qu'on va descendre tous ensemble prendre un verre. Merci beaucoup pour ce projet.